Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du RCT. Avec moi aujourd'hui Thierry Louvet. Thierry, bonjour.
Bonjour.
Et Lucas Bertolotto. Lucas, bonjour.
Bonjour.
On va débriefer ensemble, ou en tout cas on va essayer de débriefer cette triste défaite du RCT hier soir sur la pelouse du Racing. On va parler ensemble un petit peu de ce match, on va évoquer aussi les actus, avec des actus très très chaudes hein, qui sont sorties ces dernières heures. Et puis on parlera de la réception de Montpellier dans deux semaines. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Et on va regarder quelques images de ce match qu'on a réussi à retrouver. On va d'abord parler de cet essai après seulement 2 minutes de jeu, un essai du Racing. Et après, ce sera une succession de pénalités et un essai refusé pour Gabin Villiers pour une obstruction de David Ribens. Tout ça, c'est en première mi-temps. 14-3 pour le Racing à la pause. En seconde période, c'est encore le pied qui va permettre au score d'évoluer. Pas d'essai et finalement un score final de 20-6. Pas de bonus pour les deux équipes. Messieurs, on va essayer de débriefer. En plus, nous, on a de la chance, on n'aura pas la banda dans les oreilles du Racing. Hein, vous pourrez écouter l'émission tranquillement. C'est quoi vos impressions sur ce match ?
Les impressions, elles sont pas bonnes.
Hein. Oui,
on va pas essayer de dire autre chose. De toute façon, on peut pas dire autre chose. Et ce qui est de fait, c'est vraiment dommage parce que moi, je m'étais dit l'équipe de France file 40 points au Pays de Galles. Je me disais sur la lancée, je vais me régaler à regarder Toulon qui va battre le Racing. Et ben malheureusement, on peut pas dire.
Pas été le cas.
Non, pas été le cas du tout.
On s'est franchement ennuyé, on peut le dire, Lucas.
Ah ouais, on va pas le cacher. C'était assez nul comme match. Ouais. Alors bon. Pour un bon match, il faut deux équipes. Là, on va clairement le dire, les deux équipes étaient nulles. Le capitaine du Racing l'a même avoué à la mi-temps. Hein, il s'est excusé au micro de Canal Plus en disant « c'est pas beau, on s'excuse ». Mais bon, eux, ils ont gagné du coup au final. Donc même si c'était nul, ils ont réussi à gagner. Et Toulon, bah, c'était nul, mais il n'y a pas de victoire au bout. Donc
Rien,
un match, ça a été deux heures assez longues. Hein, on regarde quand même tous les matchs du RCT. On a vu des matchs qui étaient bien cette saison, d'autres beaucoup moins bien. Celui-là, je pense que c'est peut-être l'un des pires de la saison sur ces deux heures.
Ce qui saute aux yeux là en premier, c'est la stérilité. C'est les Toulonnais ont tenu le ballon, ont attaqué. Il y a cette séquence là dans le dernier quart d'heure où ils sont.
Ouais, 10 minutes, même au début, quoi. Même au début du match, tu tiens le ballon, tu es dans leur 22, puis t'arrives jamais à scorer. Mmh. T'es jamais en capacité de scorer. En fin de compte, tu tiens le ballon, mais t'es pas dangereux. Ils ont qu'à se mettre en face, plaquer, et puis il se passe rien d'autre. T'arrives jamais à les mettre en difficulté, jamais.
Oui, parce qu'on a loué, notamment nos confrères, après à chaud, on louait la bonne défense du Racing. Mais
ouais, en même temps,
pas besoin de très bien défendre.
On leur donne pas beaucoup d'incertitudes sur ce qu'on fait sur le terrain pour l'instant. Donc, et à la défense, c'est très basique, très simple. Tu te mets en face et puis t'attends qu'ils viennent dessus.
Ouais, c'était assez prévisible comme offensive du RCT. La seule fois où Toulon marque, c'est quand il y a une faute de commise. et en plus, il y a vraiment faute sur ce coup. Ribans qui saute sur le mec pour faire un trou dans la défense. Donc, il y a rien à dire. Et c'est la seule occasion de Toulon de marquer. Quoi. Alors, en seconde période, Toulon a réglé certains problèmes de faute de main, d'imprécision, de déchets un peu techniques qu'il y avait beaucoup, beaucoup en première période. Mais au final, c'était pas ça qu'il fallait régler parce que ça n'a pas apporté plus de danger. Et le Racing a réussi à tenir pendant, peut-être entre 10 et 15 minutes dans ses 22 mètres,
sans prendre
un point. Et alors qu'il y a eu plein de pénalités où Toulon avait fait le choix en première période de marquer 3 points à chaque fois, là, pourquoi d'un coup il n'y a plus ce choix-là ? Ça a été de marquer un essai, mais au final, ça n'a pas marché non plus.
73% de possession en seconde mi-temps, c'est énorme hein, à ce niveau-là.
C'est énorme et c'est incompréhensible que tu marques pas. Quoi. C'est là que c'est aberrant. Alors, est-ce que notre ligne, notre quart n'a pas les moyens, n'est pas en capacité ? Est-ce qu'on leur donne pas les moyens de le faire ? On peut se poser plein de questions sur un truc comme ça. Quoi.
C'est le débat qui anime le RCT, nous les journalistes, depuis des mois. C'est ce fameux système. Le système Massy qui a été recruté pour gérer l'attaque cette saison. Alors, Pierre Mignoni avait balayé la question après le match contre Perpignan, où on avait vu des choses intéressantes contre Perpignan, les joueurs avaient pris un peu leurs responsabilités. Est-ce que le système, aujourd'hui, on peut réellement poser quand même cette grosse
interrogation? Non, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est quoi le système Massy?
Ouais, enfin,
on ne sait pas tout. Parce qu'on sait, c'est que Contre Perpignan, les joueurs sont sortis du système. Ouais, voilà. Là, ils nous l'ont clairement dit, on l'a clairement vu. Il y a d'ailleurs deux ou trois essais qui viennent plutôt d'exploits personnels que d'offensives construites par le collectif. Hein. Celui de Dréan, c'est clairement un exploit. Celui de Jaminet, c'est un peu la passe de Issa et machin. Le Corvec, c'est aussi un exploit. Donc oui, après, Perpignan, la défense était un peu plus faible, il y avait plus d'espace. Mais c'est pas la première fois qu'on voit Toulon un peu stérile offensivement comme ça. On l'a vu à Castres, on l'a vu à Pau. Les joueurs ont changé à chaque fois. Mmh. Et au final, incapables de marquer un essai. Donc est-ce que c'est le système le problème? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est l'entraîneur de l'attaque? C'est dur de cibler ça maintenant, parce que tous les joueurs changent, mais ça reste quand même assez compliqué. Il y a des absents, mais bon, on peut pas tout mettre sur leur dos non plus. C'est compliqué.
À un moment, quand tu veux avoir une ligne de trois quarts qui se respecte et qui se trouve, il faut que les mecs jouent ensemble. Si tous les deux matchs, tu changes les joueurs, tu pour X et Y raison, hein, ou blessure, ou méforme, ou les gifles, tout ce que tu veux. Tu peux pas avoir de, tu peux, c'est pas possible, ta ligne de trois quarts ne peut pas marcher parce que tu as besoin de repères, et les repères c'est pas à l'entraînement, même si à l'entraînement on dit que non, mais l'entraînement ça, entre guillemets, ça ne sert à juste à se passer la baballe, mais tu n'as pas d'opposition, en face, t'as pas une réalité, et la réalité elle est ce qui se passe les dimanches, c'est-à-dire que les dimanches tu n'as jamais, moi depuis cette année je regarde, j'ai pas vu une seule fois la ligne de trois quarts la même sur 4-5 matchs, pas une fois. Et tu ne peux pas avoir de résultats, c'est pas possible. Tes mecs, ils peuvent pas être bons. Parce que il te manque de repères. Tu sais que lui, à un moment, il va faire un appel, il sera là. Tu sais qu'il va s'écarter un peu sur la passe, que lui, il va un peu rentrer. Tu sais comment il fonctionne en fonction de ce qu'il y a en face. Mais si tu le fais, pas jouer ensemble, tu
je pense clairement qu'il y en avait une de prédéfinie dès le début de saison, avec les Iliens, notamment, qui avait fait une grosse saison l'an dernier. Mais. Alors Pierre Mignoni l'a avoué à plusieurs reprises, certains joueurs, certains cadres, leaders n'étaient pas au niveau, dont eux notamment, donc il a fallu trouver des solutions pour les remplacer. Derrière, les autres joueurs n'ont peut-être pas été au niveau non plus, parce que forcément ils sont censés être un peu en dessous.
Disons que même les joueurs qui étaient au niveau, compliqué. Je pense à Smiley, Twikovu, se sont un peu éteints aussi. Quoi. On a eu un bon début de saison de Mathieu Smiley et de Twikovu qui a été prolongé, hein. C'était qu'un joker à la base.
Mais je pense que le fait que les gros reviennent, les leaders reviennent, et de devoir les mettre, et du coup, ça fait moins jouer les autres, mais les leaders sont plus au niveau, ça perd un peu le truc, je pense.
Quand on a fait un bon début de saison, avec des joueurs qui n'étaient pas, entre guillemets, des leaders, qui ne devaient pas être les premiers. Par contre, là, ça a été plutôt sympa. Il arrive cette Coupe d'Europe, puis tu fais rentrer ceux qui sont censés être tes titulaires à part entière, et tu t'aperçois que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne moins bien. Ouais. Tu perds deux matchs à la dernière seconde, et ces matchs-là, moi, je l'ai dit et je le redis, ils ont tapé dans la tête de tout le monde. Voilà. Ils ont tapé dans la tête de tout le monde. On peut dire ce qu'on veut, on dit on évacue, mais il y a du mal à évacuer. Et donc, pour terminer, tu refais venir ces joueurs-là, et tu fais pas grand-chose, quoi. Et bon, après, au fur et à mesure, tu les enlèves, et tu remets d'autres. Et puis la mayonnaise, elle prend plus, quoi. Parce qu'il
y avait aussi clairement un problème de compréhension du système par les joueurs qui étaient à la Coupe du Monde. Et Duncan Payawa l'a avoué à demi-mot dans les colonnes de Varmatin. Ouais. Ils ont eu du mal à comprendre à leur arrivée la façon d'attaquer que voulait transmettre Andrea Massi. Et est-ce que, alors, je sais pas, j'étais pas dans le groupe pendant la Coupe du Monde et avant cet été pour savoir comment ils se sont préparés, mais est-ce que c'est un manque de préparation qu'ils ont oublié cet été, les joueurs, vu qu'ils étaient avec leur sélection, ou est-ce que c'est le système qui est difficile à comprendre, ça je sais pas. Mais
et puis, ce qui est étonnant, c'est qu'on a une conf de presse, nous on y était cette semaine, où on loue la pelouse, on dit ça va être très rapide, c'est du jeu très rapide. Finalement, un peu les créateurs, alors Lester Fenganoukou était commotionné, donc lui ne pouvait pas jouer, mais on pense à un Duncan Payoa, on s'imagine que ça aurait pu être typiquement un match pour lui, où il y a un peu de vitesse, il est capable, lui, un peu électron libre, de créer. Et on
ajoute à Nicolo aussi, qui aurait pu faire parler ses appuis.
Et on a plutôt fait jouer des joueurs, on n'est pas là pour juger les compositions d'équipe, on n'a pas tous les éléments, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a Mathieu Smiley, Twikovu, qui eux rentrent un peu plus dans le système et dans un peu moins électron libre.
On a vu que même un Gaël Dréan, qui est capable de faire des différences tout seul, de battre 5 défenseurs sur une action, n'a pas réussi hier soir.
C'est collectif, c'est pas un joueur ou deux, c'est collectif, c'est le groupe entier, quoi, qui fait que les mecs ils arrivent pas à se trouver.
On parle beaucoup des trois quarts, mais devant, notamment on le parlait en première mi-temps, la conquête a été en grande difficulté hier soir. On n'a pas eu sentiment que ça avançait beaucoup sur les impacts.
Non, non,
donc ça n'aide pas aussi à développer le jeu.
On a toujours dit, si devant on est un peu contrarié, derrière c'est compliqué pour les gars. De toute façon, les grosses équipes en règle générale, c'est que devant c'est un gros paquet, ça nettoie tout ce qu'il faut, et puis derrière ça peut utiliser les ballons. Et là, en l'occurrence, on n'est pas dans le truc.
Il y a 5 touches perdues en tout sur ce match.
Les deux devant derrière, on est moyen. On est un coup, on est un peu. Un coup, t'es un peu bien.
Jusqu'à présent, ça tenait un peu, mais là, on sent depuis quelques semaines quand même. Dans l'émission toutes les semaines, on a senti après Castres, après Pau, que
ça commence à tomber.
Le devant est en train de largement
fatigué.
On va essayer de trouver du positif quand même. J'ai cherché hier soir quand j'ai préparé l'émission. On va dire que défensivement, bon, il y a cet essai encaissé très vite. Défensivement, les Toulonnais n'ont pas été trop mis en danger.
Ouais, parce que franchement, le Racing, il fait ce qu'il
fait. Ils n'étaient pas en confiance sur ce match.
C'est pas génial ce qu'ils ont proposé non plus. Ils gagnent petitement. Bon, ils gagnent, c'est le principal pour eux. C'est ce qu'ils voulaient faire. De toute façon, pareil, ils étaient sur 5 défaites.
Ah oui, eux, les deux équipes étaient dans le
Les deux, elles étaient à tête en bas.
Et
malheureusement, encore une fois, on les a remis en selle.
Le problème, c'est qu'il y a plus de fautes que d'habitude qui sont commises sur ce match-là. Il y en a 8. Alors que d'habitude, c'était un peu moins. Contre Perpignan, il n'y en avait eu que 4, je crois, ou 3 ou 4. Donc c'est quand même. Mais le problème, c'est que les fautes, elles sont quasiment toutes commises dans des zones de marque.
Ils ont fait le choix, eux, de tout jouer au pied.
Oui, mais parce qu'ils en ont eu l'occasion aussi. Là où le Racing a commis plus de fautes que Toulon, mais au final, Toulon n'a tenté que 3 pénalités sur les 11 du Racing, alors que 8 pénalités concédées par Toulon, ils ont marqué, je crois qu'ils en ont tenté 6 des pénalités.
Surtout quand on voit le coup de pied, on va le louer aussi, Jaminet qui met un incroyable coup de pied à 55 mètres et il a encore au moins 10 mètres de marge sur la réception du ballon, on se dit toutes les pénalités étaient largement tentées.
Mais après, chacun fait comme eux. Moi, je suis entraîneur, je lui dis, tu me tapes tout.
Surtout dans une salle comme ça où il n'y a pas de vent, pas de pluie, pas de soleil.
Le gars, il n'y a rien du tout. T'as juste à poser. Enfin, lui, en plus, il pose et il tape et ça rentre. Tu tapes tout ce qu'il y a à taper. Voilà, on s'en fout. Le principal, l'objectif, c'est de gagner ce match.
Oui, même d'un point.
Même d'un point, tu t'en fous.
Au moins revenir avec un point de bonus, parce que là, ça fait encore un voyage à vide. Ça fait beaucoup de voyages à vide, là, ces derniers temps. C'est ce que Pierre Mignoni reprochait la saison dernière. C'est ce qu'il voulait changer en début de saison sur les deux premiers matchs à l'extérieur avant la Coupe du Monde. Il avait réussi à le faire en ramenant un point de bonus de Bordeaux. Et là, au final, il n'y a pas de point de bonus. Il n'y a pas eu de point de bonus contre Perpignan la semaine passée. Ça fait beaucoup de matchs où, c'est soit 4, une victoire, soit 0. Et ça peut coûter cher en fin de saison sur ce top 14 qui est hyper serré.
On va marquer une courte pause, messieurs, mais on reprend tout de suite après et on continue de débriefer ce match et de manière plus générale la forme du RCT. Et de retour dans Tribune Bayonne, on parlait de ce triste match entre le Racing et Toulon. On a l'habitude de sortir une ou deux performances individuelles. Je ne sais pas si le mot performance peut être utilisé dans ce cas-là. On a plutôt bien aimé la prestation de Jules Danglot, qui pareil, lui est pas toujours mis dans des conditions idéales. Il a très peu joué cette saison. Là, c'était une des premières fois qu'il était titulaire. On l'a plutôt vu, Jules Danglot.
Mais c'est vrai que c'est compliqué pour un neuf quand tu te retrouves avec un paquet qui un coup est bien, un coup est pas bien, c'est compliqué. Non, mais là il a été et puis il a collé au ballon, il a tenté des choses, il a animé, il a quand même des cannes, donc à un moment il s'est fait une belle valise. Non, il a essayé de tirer son épingle du jeu d'un match un peu moyen. Et puis c'est bien parce que on cherche
un neuf remplaçant.
Serein,
et puis en plus c'est pas évident parce qu'il joue avec un 10 qui était pas forcément en confiance ces dernières semaines non plus, donc pour la charnière d'avoir un des deux qui est pas forcément en confiance, ils ont pas non plus joué ensemble tous les matchs, donc c'est pas évident. Donc oui, il a quand même bien géré son match.
Mais de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu te rends compte que t'arrives pas à avoir des joueurs qui jouent ensemble 3, 4, 5 matchs, et comment tu veux faire? C'est pas possible.
Je vous propose qu'on écoute le directeur du rugby du RCT, Pierre Mignoni, qui débriefe un peu désabusé cette rencontre.
Pour moi, si tu veux gagner à l'extérieur, il faut dominer des secteurs. Et ce soir, on ne les a pas dominés. Voilà, on ne les a pas dominés. Je leur avais demandé qu'on n'ait pas de regrets à la fin de ce match. Et je suis désolé, mais j'ai beaucoup de regrets. Et je pense que les joueurs aussi. On a beaucoup de regrets. Et même si le Racing est une très belle équipe, je pense qu'on aurait pu et on aurait dû coller un peu plus le score pour espérer, dans le dernier quart d'heure, espérer quelque chose. Mais là, C'était trop pour nous.
Voilà, bon, vous l'avez dit, désabusé, hein, Pierre Mignoni, on le sent forcément qu'il ne le serait pas après ce match. Je vous propose rapidement qu'on referme. Bon, on referme cette page match, mais on reste sur Pierre Mignoni et sur le RCT. J'ai envie de vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que Pierre Mignoni peut faire? Il va y avoir la réception de Montpellier.
C'est surtout ce que Pierre peut faire, parce que nous,
oui,
en l'occurrence.
Nous, on ne peut pas pouvoir faire grand-chose.
Nous, on peut que regarder, espérer que ça aille mieux.
Enfin, moi, je n'ai pas de grande utilité.
Encourager, mais après.
Là, il va y avoir une semaine, enfin deux semaines, du coup, pour préparer la réception de Montpellier samedi prochain. Grand danger sur ce match. Montpellier qui revient très, très fort en 2024. Sans parler de Montpellier, on en parlera à la fin, mais voilà, comment on peut relever un peu la tête, comment on peut relever la barre pour Pierre Mignoni, qu'est-ce qu'il faut faire en premier?
Ben écoute, je sais pas, l'eau elle est un peu fraîche en ce moment, la rivière vers le Gapo, là, quand je vais courir.
Ça, je veux bien vous croire.
Je me baigne, elle est bien fraîche, je sais pas, les prendre, les mettre dans l'eau, je sais pas, et franchement, c'est compliqué la question.
En fait, c'est ça la question, la sensation qui a activé un peu tout le
monde. C'est ce que j'allais te dire, tu sais, quand t'es en dehors comme ça, c'est compliqué, tu sais pas ce qui se passe dans les vestiaires, tu sais pas comment ça se passe, tu sais pas comment ça parle, c'est pas. Non, mais les leviers, je pense qu'il les a activés, hein. Pierrot, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des leaders de jeu qui vont revenir. Il y a Charles Olivon qui va revenir, il n'est pas là depuis le mois de janvier. Il y a Baptiste Serein aussi qui devrait revenir pour le prochain bloc, donc pour le début du prochain bloc. Et ça va faire normalement du bien quand on sait. Alors, même si au club, on ne veut pas se l'avouer, mais. Tout va mal depuis que Baptiste s'est blessé.
Il y a une Baptiste sur indépendance.
Franchement, il faut le dire, il s'est blessé sur le match avec Cetter et depuis rien ne va plus, alors qu'avant ça tout allait très bien. Donc lui, on sait que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire, sera une place très importante et donc peut-être que lui il va apporter un peu ce regain de fougue qu'il faut à ce groupe.
Surtout
Charles Olivon et Stéphane Abadie aussi qui n'est pas là.
Surtout au leadership parce que tu t'aperçois que les mecs ils sont perdus sur le terrain. Moi ce qui depuis un moment, ce que je vois, c'est tu regardes les hommes comme ils, au bout d'un moment, quand ça va pas, tu regardes sur le terrain, tu vois les attitudes des joueurs et ils sont tous la tête en bas et puis t'en as pas un qui récupère un peu tout le monde et qui dit voilà, maintenant on va faire comme ça, on va faire ci, on fait simple, on se resserre ou qui engueule ou qui encourage. Il y a pas ça, à part toutes les deux secondes quand il y a une mêlée qui est un peu gagnée ou quoi, venir être au quart, venir taper sur le cul des avants ou machin, ça c'est... Il n'y a pas de vraie motivation, quoi. Il n'y a pas un leadership qui se dégage de ce groupe-là. Alors, effectivement, Baptiste, je pense qu'il a ce truc-là, en plus. Parce que c'est vrai que c'est un gagneur, parce que c'est un mec qui supporte pas de perdre, et qui amène un peu ce truc-là. Mais c'est malheureux d'attendre un joueur, quoi.
Il y a une vraie Baptiste sur indépendance. Je vous propose qu'on avance parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Juste après ce match, on a appris par nos confrères de Midi Olympique le départ probable, très probable, de Bruce Deveau qui avait annoncé qu'il allait prolonger et finalement ça ne se fera pas. Bruce Deveau qui devrait rejoindre Perpignan où il retrouvera un certain Franck Azéma. Quand je parle de bombe, c'est un peu le cas parce que ça risque d'être un peu une goutte d'eau qui fait déborder le vase là, côté supporter toulonnais.
Alors oui, mais en soi, pour moi, ce départ, il n'est pas catastrophique si on enlève le côté joueur formé au club.
Bien sûr.
Parce qu'on perd un pilier gauche qui est dans la hiérarchie le troisième, avec deux autres piliers gauche devant qui, si on n'a pas un des deux de blessés, qui devrait être au club, allez, peut-être un des deux qui est en équipe de France deux mois dans l'année, mais les deux devraient être au club le reste de la saison, et qui sont plutôt au niveau. Donc, on perd un pilier droit, un pilier gauche, troisième dans la hiérarchie. Donc, pour moi, c'est pas forcément une catastrophe sur le plan sportif,
c'est
on va dire. C'est plutôt la symbolique, et là, Thierry va nous en parler, qui est moyenne, on va dire.
Moi je suis pas d'accord avec ça parce que troisième pour moi ça veut pas dire grand chose maintenant, surtout quand tu vois les matchs que font certaines des fois à gauche. Donc pour moi il est pas troisième obligatoirement, il peut même être deuxième et voire même suivant les matchs premier. Et puis en plus c'est un minot de chez nous, donc pour moi c'est un gâchis, quoi. Enfin, c'est dommageable parce que malheureusement ça s'inscrit dans une longue liste de joueurs chez nous qui, mais c'est pas de maintenant, hein, attention.
Oui, c'est ça le plus embêtant, en fait, c'est qu'il vient s'ajouter à ce qui
me gêne, c'est c'est que depuis des années, ben en fin de compte, tu formes des joueurs et puis se barrent quoi.
On pourrait faire un 15 de ouais, tu ben, qui ne joue pas à tout.
Ouais, non mais attention, il y a pas que cette période là. Hein, moi, notre période, pareil, on a eu un moment où c'est parti, quoi, voilà, ça aurait été plus sympa que les mecs restent. Et ceux qui sont revenus aux affaires ont décidé à un moment quand même justement de que ça se produise plus. Et puis bon, ben ça continue de se faire. Donc moi, je trouve que c'est dommage.
C'est surtout la symbolique de voir des jeunes formés au club qui s'en vont et
surtout qu'ils sont bons après tu perds Zé qu'on connaît pas de la Bédoule et qui s'en va, c'est pas bien grave, mais là tu perds des joueurs qui jouent quoi,
et tu vas aller recruter
un pilier gauche quoi, voilà. Moi c'est ça on connaît pas le truc, mais c'est pas les négos comme ils se sont passés, ce qui a fait qu'à un moment ça s'est cassé, mais c'est moi ça m'en fout quoi.
Et l'avantage, c'est qu'on va vite en retrouver des anciens Toulonnais, puisque Toulon va recevoir Montpellier dans deux semaines. Alors, c'est un match sous le signe des retrouvailles. Paolo Garbisi qui va probablement jouer ses premières minutes face à son ancien club. Et puis, côté Toulonnais, trois retours. Évidemment, Louis Carbonel, mais il était déjà revenu. Et puis, sur le banc, Patrice Collazo. Et un peu plus haut en tribune, Bernard Laporte, quand même. Donc, voilà, ça va être après-midi retrouvailles à Mayol. Mais plus sérieusement, il va falloir faire attention parce que cette équipe Montpellier-Rennes, on se rend pas compte, on l'a presque pas condamnée, mais en tout cas, condamnée à jouer le maintien. Aujourd'hui, elle est à 4 points des Toulonnais. Elle pourrait passer devant Toulon en cas de victoire.
Oui, et puis elle performe extrêmement bien ces dernières semaines. L'arrivée du nouveau staff a remis les choses dans l'ordre, les joueurs se sont retrouvés, certains qui étaient mis au placard vont beaucoup mieux et jouent très bien, et franchement, un coup à Toulon, ça leur permettrait même de pouvoir se dire, allez, on vise le top 6, ce qui, il y a un mois et demi, était inconcevable pour Montpellier.
Il faut bien se dire que c'est ce qu'ils se disent, hein.
Bien sûr.
Il ne faut pas imaginer autre chose. Hein.
Ils ont toujours le discours on joue le maintien, mais dans leur tête, ils voient clairement que le top 14 est serré, qu'ils peuvent aller bien plus haut que le maintien. Et
s'il y a bien une équipe à prendre en ce moment...
Et puis en plus de ça, en connaissant un peu les zèbres qui sont à la tête.
Ouais. Et puis il n'y a qu'une envie,
c'est de venir ici et puis gagner. Voilà, parce que pour l'histoire, pour ce qui s'est passé, pour plein de choses, et ils vont vouloir aussi prouver que leur équipe est quand même meilleure que celle de Toulon. Et malheureusement, en l'occurrence, sur ce qui se passe, sur les résultats, sur là, ils sont meilleurs que nous.
Ah oui, ouais. Et puis la saison dernière, il y a eu une victoire de Montpellier.
Oui.
La saison d'avant, il y a eu un match nul de Montpellier à Toulon. Donc c'est pas un joueur pour eux non plus, comme si ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas gagné ici. Patrice l'a dit, l'esprit de revanche, à mon avis, va être là. Il y a Christopher Tolofoy qui revient aussi.
J'avais oublié de le citer, mais
donc,
c'est bien ça, c'est vrai qu'en cours de saison tu vas là,
peut-être falloir aller le voir ce match, Thierry, je pense que ça vaudra le détour.
En tout cas voilà, c'est gros danger sur Mayol, et ça pourrait quand même en cas de défaite envoyer le RCT revoir les ambitions du RCT à la baisse s'il n'y avait pas de victoire face à Montpellier. Messieurs, merci beaucoup. Avant de se quitter, on va regarder les résultats des autres clubs du département. On commence avec du rugby, et malgré un contexte très difficile, hier Carcarane qui s'est encore imposé, troisième victoire d'affilée, 29-5 face à Vienne. Les Sénois se sont inclinés 39-6, le 15 du Coulon s'incline de peu 18-12 face à Château-Renard. En futsal, en Coupe de France, les Toulonnais continuent leur parcours, victoire 6-2. En handball, les Toulonnaises s'inclinent lourdement chez le champion de France en titre Metz, et Saint-Raphaël s'impose 33-31. Et puis en basket, le HTV s'incline 68-64. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
On va marquer une courte pause comme les joueurs, nous, la semaine prochaine, mais on se retrouvera pour débriefer justement toutes ces retrouvailles dans Tribune Mayol après le match de Montpellier.